Je m'appelle Marulune et cette année, j'ai rencontré les femmes au visage tatoué du Myanmar. Je suis allée à leur rencontre, j'ai écrit un reportage sur mon blog et c'est un sujet qui me tient à cœur, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Les femmes au visage tatoué du Myanmar, c'est des femmes de l'ethnie chine qu'on rencontre encore en Birmanie. Pourquoi ce sujet me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'histoire de femmes qui vont disparaître d'ici à 30 ans, puisque les dernières représentantes ont déjà dépassé leurs 60 ans et les plus âgées que j'ai rencontrées avaient autour de 93 ans. Donc c'est une population qui va disparaître, la tradition du tatouage facial ne se poursuit plus, elle a été interdite dans les années 50 par le gouvernement et voilà, aujourd'hui c'est une vraie tradition ancestrale, c'est quelque chose qui tient à cœur à ces populations et qui moi me tient à cœur de transmettre pour faire perdurer malgré le fait que ça va disparaître en même temps que le monde avance et qu'on évolue.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Marulune nous raconte la Birmanie. Avec elle, on a parlé de tatouage, de tradition et de voyage responsable.
J'ai bourlingué à travers le monde. J'avais entendu parler des femmes tatouées du Myanmar quand j'étais encore en France. J'avais dû voir passer un reportage à l'occasion, j'avais des amis qui m'en avaient parlé. Et je m'étais gardé ça dans un coin de la tête parce que c'est vrai que dans mes voyages, une chose qui compte beaucoup, c'est la rencontre avec les locaux et la rencontre avec les us, les coutumes, les traditions. Qu'elles soient encore vives, encore dynamiques au sein des populations ou qu'elles soient justement en train de s'effacer et de disparaître. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces femmes, coûte que coûte. Ça n'a pas forcément été facile parce que c'est des endroits du pays qui ne sont pas encore... très accessible et pourtant j'avais vraiment envie d'y aller, donc je me suis donné les moyens. J'ai pris beaucoup de bus, j'ai fait beaucoup d'heures de bus dans les montagnes, j'ai fait du bateau, j'ai pris différents transports pour arriver jusqu'à elles et j'ai rencontré ces femmes dans l'État Chine. Les femmes au visage tatoué du Myanmar, en fait, ce sont les femmes chines, du même nom hein, que leur ethnie. Mais au sein de cette ethnie, il y a plusieurs tribus, dont je crois 4 ou 5 ont un tatouage facial qui permet notamment de se distinguer en tant que femme chine, mais aussi pour d'autres raisons, on le verra après. Donc je suis allée dans cet état et j'ai rencontré ces femmes. La première que j'ai rencontrée, c'est Matine Thuy. Matine Thuy, c'est une femme qui vit dans un village... au bord de la rivière, donc j'ai dû y aller en barque. J'ai emmené avec moi un guide à qui j'avais demandé d'être un peu mon traducteur. Il faut savoir que c'est un dialecte local, donc ça veut dire que même une personne qui parle uniquement birman n'aurait pas pu échanger forcément avec ces femmes chines qui ont un langage propre à leur population. Matine Thuy, c'est la première personne que j'ai rencontrée de cette tribu et c'était très impressionnant pour moi. Parce qu'elle avait un tatouage de la tribu des femmes araignées. Les femmes araignées, elles ont des lignes qui partent à peu près du nez et qui vont vers l'extérieur du visage. Et c'est très étonnant parce que les lignes s'entrecoupent au niveau des paupières et elles forment des losanges. Bah évidemment, la première chose, c'est que j'ai eu plein de questions qui ont afflué à mon esprit, que vous pouvez éventuellement vous poser, notamment celle de la douleur, parce qu'évidemment, avec le tatouage, on se pose la question de est-ce que ça fait mal, combien de temps ça dure. Il y a plein de questions qui arrivent. Et puis en même temps, je suis hyper impressionnée par cette femme âgée. D'abord parce qu'elle est très vieille, ensuite parce qu'elle fait pas trop attention à moi, je suis là, je rentre chez elle avec un guide, elle est avec ses sœurs qui vivent avec elle, qui sont un peu plus jeunes et du coup qui sont pas tatouées pour le coup. Et elle me propose de m'asseoir donc en me déposant un tabouret au sol, à même la terre battue. Elle est sur une petite chaise en plastique vert et en fait ses mains s'agitent sur une pelote qu'elle est en train d'enrouler. En fait, il y a un fil bleu, un métier à tisser, peut-être, je sais pas bien ce que c'est, mais en tout cas, elle est en train de faire quelque chose avec ses mains, ça bouge, ça va super vite. Je sais pas trop sur quoi me concentrer, en fait, parce que je suis comme une petite fille. Je sais même pas par où commencer, et j'ai surtout peur d'être un peu inquisitrice avec mes questions, parce que moi, j'ai plein de questions, mais elle est chez elle, elle m'accueille, et je sais pas si elle a vraiment envie de parler. Du coup, la première chose que je fais, c'est de demander à mon guide de lui traduire donc mes pensées et de lui demander déjà si on peut lui poser des questions, si ça la dérange pas qu'on soit venu à elle et si elle accepte de nous répondre aussi. Donc elle accepte parce qu'elle a l'air plutôt ouverte, bien que timide quoi. J'ai juste un petit sourire sur son visage que je décèle, mais il n'y a pas grand chose. Et au fur et à mesure des questions et des échanges, elle va quand même se dérider. Elle va même jusqu'à me sortir un livre qui a été réalisé sur les femmes chines par un photographe, je crois, et dans lequel elle est en photographie. Et donc, elle est super fière de montrer ça. Là, j'entre vraiment en communication avec elle parce que je me rends compte qu'elle a envie de partager des choses et de me montrer son histoire. Même si elle reste réservée là-dessus, je pense que c'est une vraie fierté pour elle de me montrer ce livre et de répondre à mes questions. Matintwe, elle a 84 ans, elle vit dans ce village depuis toujours, elle n'est jamais sortie du village. Et en fait, elle vit donc avec ses sœurs et ses filles. Et puis, un peu comme partout au Myanmar, en fait, où toutes les générations vivent ensemble, et surtout dans les régions reculées et les plus pauvres, puisqu'on est dans un des états les plus pauvres du Myanmar. Un des premiers trucs qu'elle me dit, c'est qu'elle est très très fière de porter ce tatouage qui fait entièrement partie de son identité. C'est une information hyper intéressante parce que c'est la première femme que je rencontre et elle me parle de fierté, alors que moi je m'attendais à ce qu'on me parle avant tout de douleur, mais en même temps oui de tradition. Finalement, je sais pas si j'avais des attentes, mais je savais pas trop si justement ce terme de fierté il allait arriver dans la discussion. D'ailleurs, il y a plein de femmes que je rencontre plus tard dans son village, dans d'autres villages et même dans un endroit encore plus reculé dans les montagnes de l'État Chine un peu plus tard dans mon voyage, qui me font part du fait qu'elles n'étaient pas du tout fières à l'origine de porter ce tatouage. Elles n'en avaient même pas forcément envie. J'y viendrai un peu plus tard, mais c'est vrai que pour certaines, ça a été plutôt de la torture à l'origine. Et finalement, ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment de la fierté. Et de toutes, c'est-à-dire que même si elles n'ont pas mentionné la fierté comme étant un sentiment qui leur est venu dès leur enfance, elles le mentionnent en tout cas maintenant à l'âge adulte et à l'âge de la vieillesse, vraiment avec sérénité. Pour reprendre un peu l'histoire du tatouage facial au Myanmar, j'ai écrit pour traduire ce que j'ai cru comprendre, qu'on était quand même entre torture et tradition, parce qu'il s'agit d'une coutume ancestrale qui était en fait une coutume douloureuse. Finalement, le tatouage, c'est douloureux. Certains parmi vous le savent sûrement, et en même temps, nous, c'est un vrai choix. Et surtout, la plupart d'entre nous, on se fait pas tatouer sur le visage. Les femmes, elles étaient tatouées enfants, entre 7 et 13 ans, sachant que 13 ans, c'était déjà un peu tard, finalement, puisque autour de 10 ans, la peau est encore assez flex, ça évite d'avoir trop de saignements au moment du tatouage, et donc ça facilite le tatouage et le dessin. À l'époque, il y avait un tatoueur par village, et c'était lui qui était chargé de tatouer toutes les petites filles, donc c'était vraiment une coutume qui était réservée aux femmes. Il y a plusieurs hypothèses et de raisons même admises de pourquoi cette tradition du tatouage facial est née chez les Chines. D'abord, ce tatouage, il était fait pour enlaidir les femmes de la tribu. Pourquoi ? Parce que l'État Chine, il est situé à quelques heures de Bagan, et les plaines de Bagan, elles étaient habitées par les rois de Bagan. Et puis bon, l'ethnie Chine, elle était aussi entourée de plein d'autres ethnies. Et en fait, les femmes se faisaient enlever pour être mariées dans d'autres tribus, puisqu'elles étaient considérées comme des très belles femmes dans la région. Et pour éviter qu'on vienne leur voler leurs femmes, la tribu a décidé de les enlaidir avec des tatouages, et en même temps d'en faire une vraie identité. Et donc aujourd'hui, chez les Chines, on retrouve un tatouage par ethnie. Par exemple, il y a les femmes araignées que je vous ai mentionnées un peu plus tôt. Mais il y a aussi les femmes qui ont des tatouages en forme de B sur les joues ou de fleurs. On peut le voir comme une fleur. Il y en a qui ont des points. Et donc en fait, tout ça fait que entre elles, les tribus pouvaient reconnaître à la fois qu'elles étaient chines et en même temps qu'elles étaient de telle ethnie chine ou telle autre ethnie chine. Avec le temps, les hommes n'auraient jamais voulu épouser une femme qui n'était pas tatouée. C'est devenu un critère de beauté chez les femmes, alors qu'à l'origine, c'était fait pour les enlaidir. Donc ça, déjà, ça peut participer du fait que les femmes en sont fières aussi. Ensuite, c'est vrai que le visage nu faisait l'objet de moqueries pour les plus petites filles qui n'étaient pas encore tatouées, donc qui n'avaient aucune encre injectée dans la peau, finalement, vis-à-vis des plus grandes, elles recevaient pas mal de moqueries et certaines m'ont même parlé d'envie de se faire tatouer très jeune. L'une à 7 ans a complètement travaillé son père en lui disant « Si papa, j'ai envie de recevoir ce tatouage » et donc il y avait déjà cette envie de faire comme les autres et aussi cette fierté de faire partie de la tribu Chine et d'être reconnue comme telle. Après, il y a d'autres hypothèses qui sont moins évidentes. C'était la possibilité de faire peur aux animaux, puisque finalement, elles vivaient dans un état dans lequel il y avait des tigres, dans lequel il y avait des serpents, il y avait des singes. Et voilà, c'est une des hypothèses qui existe, le fait de pouvoir effrayer les animaux et les éloigner. Je ne sais pas si celle-ci est juste. Celle qui, en tout cas, ressort le plus souvent de toutes les questions que j'ai pu poser à la fois à la tribu Chine et aux gens qui vivent dans cet état, c'est vraiment... cette façon pour la tribu de s'identifier et d'enlaidir leurs femmes. Au-delà de ces femmes qui avaient vraiment envie de se faire tatouer, pour qui c'était une marque d'identification forte et qui voulaient juste faire partie du groupe et puis faire partie de leur population vraiment au sens large et au sens fort d'appartenance, il y a certaines femmes, et j'en ai notamment rencontré une, qui ne voulait pas du tout recevoir ce tatouage. Et si j'utilisais le mot torture tout à l'heure, c'est vraiment réel, c'est parce qu'en effet, pour elle, ça a été de la torture. C'est-à-dire que quand elle m'a raconté la manière dont elle s'était fait tatouer, moi j'en ai eu un peu mal, c'est vrai. Elle m'a raconté que sur chacun de ses membres, il y avait une personne qui la retenait, et le tatoueur était assis sur sa poitrine, en lui maintenant le visage pour pouvoir la tatouer à ce moment-là. Et donc elle a reçu un tatouage qu'elle n'avait pas souhaité. Et à ce moment-là, ça a été pour elle beaucoup de douleur et certainement plein d'autres sentiments que je n'ai pas forcément eu l'occasion de bien comprendre puisqu'il y a quand même une vraie barrière de la langue malgré le guide qui a fait traducteur pour moi. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, sa vision, elle a changé. Elle me dit « Oui, ça fait mal. Oui, j'ai eu... Sur le moment, ça a été très difficile. Et maintenant, avec le temps et à mon âge, je suis vraiment très fière de porter ce tatouage. D'autant que la tradition va disparaître. Moi, j'aide et je participe à la faire perdurer dans le temps. Au moins, tant que je suis là, cette tradition, elle existe. » Et il y a encore un autre cas. Il y a une femme qui m'a mentionné le fait que... Parce qu'évidemment, je posais la question de « Est-ce que ça vous faisait peur ?» de recevoir ce tatouage, même si vous en aviez envie, ça reste une aiguille et surtout une technique de tatouage qui ressemble pas du tout au nôtre actuellement. C'était fait avec une plume de poulet trempée dans de l'encre qui était faite avec des pigments. Enfin, c'est pas barbare, c'était avec les moyens du bord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ferait jamais ça. On a des techniques bien plus pointues qui font que c'est beaucoup moins douloureux le tatouage que le tatouage traditionnel. Donc elle a mentionné la peur, mais finalement pas la peur de recevoir le tatouage, mais la peur de voir disparaître sa tradition. Et du coup, quand je lui ai posé la question de « est-ce que t'as eu peur de mourir ?», elle m'a dit « j'avais bien moins peur de la mort que de voir s'éteindre mes traditions ». Donc c'était très fort vraiment de partager ces échanges avec ces femmes et de voir surtout la disparité qu'on pouvait rencontrer dans leurs discours et en même temps les points de convergence qui allaient tous vers la fierté et vers le port d'une identité forte. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer une femme qui était accompagnée de sa petite fille. C'était vraiment hyper intéressant de voir cet écart entre les générations, cette femme qui devait avoir dans les 80 ans et sa petite fille qui en avait peut-être 7, qui aurait été en âge de se faire tatouer et à qui on a posé la question « Est-ce que t'aimerais avoir ce tatouage comme ta grand-mère ?» et qui, de manière hyper timide, a secoué la tête en disant non. Aujourd'hui, c'est plus une volonté des jeunes, finalement, d'être tatoués. Et je pense qu'il y a une évolution, évidemment, qui se fait avec le monde. Et c'est des populations qui commencent à avoir des contacts avec le monde qui est le nôtre et dans lequel le tatouage facial est juste une bizarrerie. Et c'est vrai qu'au-delà de la douleur et au-delà des traditions, les enfants n'ont plus envie d'avoir, comme leurs grands-parents, ce tatouage que d'ailleurs, la plupart du temps, elles trouvent moche. Aujourd'hui, cette tradition ancestrale du tatouage facial au Myanmar et chez les Chines, elle est amenée à disparaître, puisqu'en fait, cette coutume ancestrale a été interdite dans les années 50 par le gouvernement et par le biais des chefs de village qui ont fait descendre l'information. Et du jour au lendemain, ça a été interdit, sous peine de représailles vraiment importantes. D'ailleurs, j'ai rencontré une femme, c'était une des dernières que j'ai rencontrées, et en même temps, c'était là aussi une rencontre très forte. Je vais dire un peu un truc idiot, ou en tout cas je me sens idiote de l'avoir pensé, mais quand je l'ai vue avec juste un petit bout de tatouage sur la joue, je me suis dit tiens, elle est moins impressionnante que toutes les autres que j'ai pu rencontrer. Et en fait, je me suis complètement trompée, j'ai un peu trop vite jugé sur les apparences. Cette femme, elle avait un tatouage donc en forme de B sur la joue, mais qui ne prenait pas du tout l'ensemble du visage comme il aurait dû. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle avait été surprise par les militaires qui étaient venus dans son village pour vérifier que la tradition avait été arrêtée en plein milieu du tatouage. Donc pour elle, ça a été un moment très stressant puisqu'on lui a fait tout arrêter et surtout on lui a ordonné de ne pas reprendre ce tatouage. Et dans les semaines qui ont suivi cet événement, les militaires sont revenus plusieurs fois au village pour vérifier que le tatouage n'avait pas avancé et qu'elle n'avait pas poursuivi le dessin et voilà qu'elle n'était pas en train de terminer son tatouage. Il était clair que pour le gouvernement, il fallait que ça s'arrête de manière instantanée. Tatouage commencé ou tatouage pas commencé quoi. Donc c'était hyper intéressant d'avoir sa vision des choses à elle, puisqu'elle était bien différente de celle de toutes les autres femmes. Elle a été impactée différemment. Elle a été impactée de là à avoir la moitié d'un dessin sur la joue, qui aujourd'hui se voit plus beaucoup parce qu'il a été effacé par le temps, par la vieillesse, par les rides, mais qui a le mérite d'être là et de raconter peut-être encore plus que les autres une partie spécifique de l'histoire. Moi, je me suis beaucoup posé la question et on m'a pas tellement apporté de réponse. Pourquoi est-ce que le tatouage facial, il a été arrêté? En tout cas, pourquoi le gouvernement l'a interdit? Une des hypothèses que j'ai formulées avec les personnes avec qui je voyageais à ce moment-là, c'est que, évidemment, le gouvernement aurait eu l'ambition de rassembler son peuple au Myanmar et le Myanmar, la Birmanie, est un pays qui est vraiment qui regorge d'ethnies, dans lequel il y a de multiples ethnies encore aujourd'hui, bien malgré le développement du pays. Et l'idée, ça aurait été de contrôler par l'unification et l'unicité des peuples et donc la volonté d'effacer les traditions qui différenciaient en fait chaque population au sein même du pays. Ça, c'est une hypothèse que je trouve assez valable, qui correspond plutôt à la manière des gouvernements de faire, et finalement la vraie barbarie, je trouve qu'elle a été là, elle a été dans le fait d'interdire à des gens d'être eux-mêmes à une époque où le tatouage facial représentait vraiment leur identité. C'est une histoire qui m'a passionnée, que j'ai eu envie de vous transmettre aussi pour quelque part la faire vivre encore, cette tradition qui leur tient tant à cœur, et de manière hyper humble de leur rendre un peu hommage à ces femmes qui, comme nous tous, vont disparaître, mais avec qui la tradition qui leur était hautement importante va s'effacer, et ce, pour toujours en fait.
Merci pour ce récit.
Merci à toi de m'accueillir au micro.
De manière générale, est-ce que tu as un rituel avant de partir en voyage?
Pas vraiment, mais c'est vrai que je pars souvent en voyage pour longtemps. Je suis partie une fois un an et demi, et la dernière fois je suis partie 3 mois. Ça m'arrive de partir 3 semaines comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai pas un rituel spécifique, si ce n'est peut-être celui de faire mon sac à dos vraiment et de trouver toujours le moyen de gagner de l'espace. Ça, c'est ma vraie problématique. Donc c'est vrai qu'à chaque fois avant de partir, je fais mon sac et je passe des heures à le faire, le défaire, à remettre des trucs, à enlever des trucs. Et je sais pas si on peut appeler ça rituel, mais voilà, ça c'est mon truc avant le voyage.
Une fois que t'es sur place. Bon, j'imagine que partir 3 semaines, c'est pas pareil que partir 1 an, bien entendu, mais quelle place tu laisses à l'improvisation?
Je laisse énormément de place à l'improvisation. J'adore improviser. En fait, c'est là que je trouve que ça laisse le plus d'espace à la surprise et en fait au voyage, au vrai voyage. Pour moi, préparer un voyage, ça doit se limiter à se donner envie, regarder les points clés éventuellement où on a envie d'aller, et voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, la dernière fois que je suis partie en voyage, je suis arrivée et voilà, il était midi, je me suis cherché une auberge, j'ai marché dans la rue, je savais juste dans quel quartier je voulais aller, mais j'avais pas réservé en soi mon auberge. Et ça m'est arrivé de débouler parfois à minuit dans des endroits où je me suis dit « Oups, c'est fermé », et finalement de voir le rideau se lever. Donc en fait, moi, j'aime vraiment l'improvisation dans le sens où c'est ce qui va permettre d'avoir des expériences originales qui vont pas être prévues. Et finalement, c'est vrai, j'ai les fois où j'ai beaucoup prévu. Par exemple, au Japon, je suis partie 3 semaines, donc je voulais faire plein de choses. Pour le coup, j'avais beaucoup prévu. Je partais avec mon petit frère en plus, donc on avait vachement timé le voyage. Et j'ai adoré le Japon, mais c'est vrai que j'aimerais le refaire de manière plus libre, parce qu'en fait, j'aime pas être dans un carcan où je sais que demain, je dois être à tel hôtel, et du coup, j'ai pas tellement de place pour improviser et pour me laisser du temps si j'aime cette endroit pour y rester plus longtemps et finalement ne pas aller voir un autre endroit, tant pis. Le voyage, c'est beaucoup de choix et je trouve que finalement, t'es plus libre et t'as plus le choix quand t'improvises plutôt que quand tu prépares tout pile poil à l'avance. Voilà.
Tu mentionnes au début de l'épisode avoir écrit un article sur l'histoire de ces femmes tatouées. De manière générale, comment tu documentes tes voyages? Comment tu les racontes?
Sous forme d'article. En fait, j'ai lancé un blog de voyage quand je suis partie la première fois pour un an et demi, en me disant que comme ça j'aurais un support pour montrer que j'avais continué à faire des choses pendant un an et demi, plutôt côté professionnel, puisque moi je suis communicante de formation. Et en fait je me suis totalement prise au jeu, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, écrire. Et du coup j'écris beaucoup, et ce que j'aime dans le blog, c'est pas seulement me raconter moi, mais c'est partager des informations qui vont être utiles à d'autres, ou qui vont permettre à d'autres de s'évader, ou de préparer un voyage, ou quoi que ce soit. Donc voilà, plutôt par le blog, et puis il y a les réseaux sociaux aussi. Je suis assez présente sur Instagram et du coup je fais pas mal de posts, et je trouve que le nouveau format story, enfin qui est plus vraiment nouveau aujourd'hui, il est chouette parce qu'il laisse la place à pas mal de choses. Tu peux vraiment faire des stories différentes selon qui tu es et ce que tu as envie de faire. Et pendant ce dernier voyage, j'ai fait des stories un peu reportage, notamment sur ces femmes dont je vous ai parlé, mais aussi sur mon expérience dans la jungle au Népal par exemple, où j'avais vraiment emmener le spectateur avec moi dans les stories au quotidien, ou quand je suis partie faire le tour des Annapurna, où tous les jours je racontais un peu, ou alors en différé parce que j'aime aussi bien vivre le voyage et le raconter après, mais jour par jour, pour emmener finalement l'internaute dans mon aventure avec moi, pour lui faire vivre aussi ses émotions. Et je pense que ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est quand il y a des commentaires de gens qui sont vraiment investis et qui vivent le truc. Et j'ai quand même des gens qui m'ont dit j'ai pleuré à ce moment-là, j'ai eu des frissons, j'ai eu trop peur, ou qui m'encourage en me disant « Allez, tu vas y arriver et tout », même si en fait j'y suis déjà arrivée, tu vois, à mon sommet. Mais c'est génial de pouvoir partager de cette façon, et c'est vraiment ce que j'aime, l'authenticité finalement, dans les réseaux et dans le partage.
Bon, je tente un parallèle. Tu peux rencontrer des gens grâce aux réseaux sociaux, et le voyage, il est aussi fait de rencontres. Toi, comment tu considères les rencontres en voyage? Est-ce que c'est des relations un peu éphémère et intense, ou est-ce que tu as tendance à garder contact avec les gens que tu rencontres sur place?
La rencontre, pardon, c'est au cœur de mon voyage. C'est ce qui fait mes voyages, en fait. Et pour moi, ce que je vous ai raconté là comme récit, c'est une rencontre. En fait, il y a des rencontres qui sont vraiment des bribes de mes voyages, et d'autres qui sont hyper importantes. J'ai rencontré des amis qui aujourd'hui sont mes meilleurs amis en voyage. Et j'ai rencontré des gens que j'ai côtoyés une fois, que j'ai adorés, et voilà, les choses se sont pas faites, on n'a pas pu ou voulu garder contact, ou pour n'importe quelle autre raison. Et c'est pas grave, en fait, ça fait partie du voyage. Mais tu vois, je vais te parler d'une rencontre qui me revient en tête. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, un jour, je suis arrivée dans un camping où je voulais réserver un emplacement pour mon van. Et il y avait un petit garçon roux qui était allongé au sol, en train de bouquiner, quoi. Et il avait un plâtre. Et il y avait personne à la réception à part lui qui était par terre, et il a commencé à me raconter l'histoire de son plâtre et ce qui s'était fait et tout, et ça je l'ai noté dans un coin de ma tête et un coin de mon cœur, et je me suis dit ça c'est une belle rencontre. Pourtant elle a été furtive, il n'y a pas vraiment eu d'échange au-delà de ça, mais pour moi les rencontres c'est ce qui fait le voyage, en fait, c'est les gens.
Bon, pour revenir sur la Birmanie, toi est-ce que t'as un peu poussé et t'as été dans d'autres endroits dans le pays après ton expérience dans l'État Chine, ou tu n'as été que dans cet état-là?
Non, alors je suis restée un mois en Birmanie. L'État Chine, c'est même arrivé plutôt à la fin de mon voyage. Je suis arrivée d'abord à Rangoon, qui est donc la grande ville tout au sud. Et de là, je suis allée visiter la région de Pahang, qui est une région qui a été ouverte il n'y a pas si longtemps au Myanmar, qui commence à être touristique, mais qui ne l'est pas trop actuellement, et qui est une région magnifique, vraiment, vraiment magnifique pour ses couchers de soleil. Pour moi, la Birmanie, ça a été un voyage très spécial. J'ai perdu mon grand-père le premier jour de mon voyage. Donc la Birmanie a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. Et au début, j'avais un sentiment plutôt négatif parce que finalement, ça faisait vraiment partie de mon deuil. Et à terme, quand je me retourne, je me dis en fait, chacune des expériences que j'ai eues en Birmanie, elle m'a plu. Cette région de Pan, je l'ai adorée. Elle m'a permis de faire ma petite cérémonie à moi de mon côté. Elle m'a permis de pleurer tranquille sur un scout, mais devant des paysages incroyables. Je me souviens de ce vert tendre des rizières et du rose dans le ciel, enfin c'était divin, en fait c'était magnifique. Et du coup après je suis allée totalement de l'autre côté, sur la côte est, où je suis allée à Napali, c'est un village de pêcheurs, Et là, j'ai passé plusieurs jours à observer les femmes qui triaient les poissons dans les filets et les hommes qui partaient à la pêche le matin tôt et qui rentraient le soir et qui tiraient les filets. Enfin, c'était vraiment des scènes incroyables. Ensuite, je suis allée voir les femmes tatouées du Myanmar. Et un peu plus tard, je suis allée à Bagan, qui m'a beaucoup plu, qui est un peu l'endroit en Birmanie que tout le monde connaît, évidemment, parce que c'est très renommé. C'est un site archéologique vraiment incroyable, qui devient un peu plus touristique, mais qui est vraiment chouette. Et j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'autres choses. Je suis allée au Lac Inle aussi. Mais finalement, c'est très grand et un mois par pays, c'est pas énorme. Surtout dans un pays aussi riche que la Birmanie. Je retournerai avec plaisir, tu vois. C'est vraiment un voyage que j'ai aimé. Et je le dis avec le recul, parce que sur le moment, j'ai pas forcément ressenti tout ça de la même manière. Mais ouais, avec le recul, j'y retournerai.
Comment ont réagi les Birmans? Et par les Birmans, j'entends plus les gens de la ville. Quand tu leur as raconté l'histoire de ces femmes tatouées, ils la connaissaient?
Écoute, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. L'endroit m'était assez facilement indiqué, quoique les gens savaient pas exactement comment faire, etc. Mais on m'a quand même indiqué la direction. J'ai expliqué pourquoi je voulais aller là-bas. Et on a hoché la tête, quoi. On m'a dit oui, etc. Et ce qui a vraiment été le plus important, enfin, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils étaient au courant du fait que les femmes chines se faisaient enlever par les rois de Bagan. Mais du coup, c'était autour de la région de Bagan où les gens étaient un peu plus au courant de ce qui s'était passé dans l'histoire, tu vois. Mais c'est vrai que je sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec énormément de gens ailleurs en Birmanie.
Pour se parler du retour, toi, est-ce que tu es atteinte, une fois que tu es de retour au pays, de ce qu'on appelle voilà, le spleen post-voyage ou le blues post-voyage?
Alors, ouais, j'en ai été atteinte. Et puis, j'essaye, au fur et à mesure de mes retours, de le gérer différemment. La première fois, donc, je revenais d'un an et demi de voyage. J'ai eu 6 mois de blues, mais par vagues. C'est-à-dire que j'étais à la fois très contente, j'avais plein de projets, et en même temps, j'étais très triste. Mais à partir du moment où j'ai mis le doigt sur qu'est-ce qui me rendait triste, en fait, le fait juste d'être rentrée, de ne plus voyager, je suis repartie sur la pente haute. Donc, c'est vrai que le dernier voyage de 3 mois, je savais la date de mon retour, je l'ai beaucoup préparé, ce retour. Déjà, à chaque fois qu'il y avait un truc qui me manquait, je le notais. En me disant, bah, tu vois, sur place, tu pourras te référer à cette liste et te dire, bah oui, t'avais pas ton pain au chocolat le matin, t'avais pas cette petite chose, ce lit qui te manquait, voilà. Et en fait, pour moi, la vraie solution au retour de voyage et contre le blues, c'est les projets. Que ce soit de voyage ou pas, mais un truc qui te porte, qui te fasse vivre autant que ce que tu peux ressentir pendant le voyage, parce que le voyage c'est intense, et d'un coup tu rentres et tout devient moins intense et moins fun, et moi ce qui me manque beaucoup c'est l'émerveillement, donc j'essaye de pallier à ce non-émerveillement au quotidien en ayant des projets pour repartir, et puis des projets perso sur place, et le blog fait partie des gros projets qui me tient en fait, et qui me fait vibrer au quotidien.
Alors justement, pour se parler projet et futur, toi tu vas partir où dans les mois à venir? C'est quoi tes projets?
Alors là prochainement, à très très court terme, je vais faire une semaine de rando dans les Pyrénées avec mes parents, parce que les voyages me permettent aussi de me rendre compte que j'ai envie de me rapprocher de mes parents et de passer du temps avec eux. Mais aussi, plutôt pour l'année prochaine du coup, en grand voyage, un voyage encore une fois en famille, un mois en Islande. Pour le moment, c'est à l'état de projet, mais mes parents, mon petit frère, c'est un truc qui m'éclate, en fait. J'ai vraiment envie de faire ce projet avec eux et qu'on se retrouve comme les vacances qu'on faisait enfant. Et quand on en a parlé, on était tous les quatre comme des gamins, avec chacun un truc qu'on voulait absolument voir, un truc qu'on voulait absolument faire. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai envie de partager une fois un voyage pour de vrai avec mes parents. Et puis, éventuellement, j'aimerais bien partir en Mongolie. C'est un pays qui me fait vibrer. Pour ces grands espaces, pour les populations, encore une fois, qu'on peut y rencontrer, pour leurs traditions, leur manière de vivre, les nomades. Ça, c'est un projet que j'ai envie de mettre en œuvre prochainement. Mais pour le moment, il n'y a pas de billet d'avion acheté, en tout cas.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc voilà, t'as un petit espace à toi qui t'est réservé. Si tu as une anecdote, une recommandation ou un proverbe à partager, c'est à toi.
Kiffer. Profitez du temps que vous avez pour faire ce que vous avez envie de faire, et si ce que vous avez envie de faire c'est de voyager, allez-y. Et si je peux me permettre, pensez toujours à la petite touche éco-responsable. Emmenez votre gourde, n'achetez pas trop de plastique, et puis voyagez responsable. C'est voyager local, c'est voyager sans s'immiscer dans la vie des autres, et si vous pouvez éviter l'avion, parce que je parlais d'avion tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'avion, et ben prenez d'autres moyens de transport et faites au mieux pour être les plus éco-responsables possibles.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. J'ai bourlingué.